Il est 17h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Marc Beaudoin. Marc, on parle tout d'abord de ces primes pour les infirmières en Outaouais, là, annoncées par le ministre Lacombe.
La semaine dernière, le ministre de la Famille et responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a annoncé la mise en place de primes pour les infirmières en Outaouais d'ici les prochaines élections provinciales en octobre 2022. Le ministre Lacombe veut par cette mesure solutionner le problème de l'exode des infirmières de l'Outaouais pour l'Ontario et répondre à la pénurie de main-d'œuvre. La présidente par intérim du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais, Karine D'Auteuil, mentionne que cela fait des mois qu'une prime frontalière est réclamée et que celle-ci aurait dû être implantée il y a 3 ans.
M. Lacombe, au début de son mandat à la CAQ, a dit que sa priorité, c'était le réseau de la santé. 3 ans plus tard, le réseau de la santé n'a jamais été aussi mal que présentement. Une prime frontalière est une nécessité à ce point-ci. Ce n'est pas une idée qu'il faut aller travailler. Les dommages collatéraux, ça fait de plus en plus. Ça va être dur de remonter la pente. Donc, il ne faut pas attendre un an et demi à la fin de son mandat pour aller gagner des votes supplémentaires à la prochaine élection. Il faut l'instaurer pour hier, la prime.
Madame D'Auteuil mentionne que cette prime frontalière est un élément qui aidera à la rétention et à l'attraction de main-d'œuvre, mais d'autres solutions doivent également être envisagées. Elle dit être toujours en attente pour une rencontre avec Mathieu Lacombe pour lui exposer la conjoncture avec l'Ontario. De plus, la pandémie est venue accentuer la problématique.
La pandémie est venue accentuer la pénurie, c'est certain. Quand le ministre Dubé a sorti des primes escaliers, selon moi, c'était un cadeau empoisonné, si on peut dire, parce que pas de personne qui avait accès à cette prime-là, malgré que tous les professionnels en soins étaient touchés par la pandémie, fait que ce soit par surcharge de travail. Déjà là, ça affiche des départs. De janvier 2021 au 27 juillet, j'ai eu 161 départs pour 25 embauches pour le saut complet.
La présidente par intérim mentionne que l'annonce est vague, qu'elle attend des actions concrètes et qu'elle va croire à la prime lorsqu'elle sera mise en place.
Il y a la ministre du Tourisme qui propose un nouveau cadre pour l'hébergement touristique.
La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a présenté à l'Assemblée nationale en juin dernier son projet de loi 100 sur l'hébergement touristique qui vise à instaurer un nouveau cadre législatif. Ce nouveau cadre amènerait l'abolition du système de classification par étoiles chez les hôteliers québécois, considéré désuet, et serait remplacé par un enregistrement en ligne et une déclaration annuelle de l'offre d'hébergement et des services offerts. Cette nouvelle façon de procéder permettrait d'alléger le fardeau administratif et de standardiser le parc hôtelier. Voici les réactions de Martin Saint-Jacques, propriétaire de l'Auberge du Draveur, et de Marco Étier, directeur au Château Logue.
On n'a pas beaucoup d'informations pour le moment. La classification par étoile fait en sorte quand on magasine notre hôtel, une 2 étoiles, une 3 étoiles, une 4 étoiles, en tout cas pour moi, ça fait une différence.
D'après moi, ce que je vois, c'est qu'en réglementant les Airbnb, c'est que là, ils vont les mettre plus accessibles, puis le monde va pouvoir plus se réglementer pour voir ce que ça va nous donner comme impact. Il est un peu tôt pour moi de voir jusqu'où ça peut aller pour notre impact.
Certains entrepreneurs du secteur de l'hébergement touristique préféreraient une simple adaptation du guide de classification par étoile en fonction des tendances et des avancées technologiques. Martin Saint-Jacques et Marco Étier sont également de cet avis.
La classification par étoile est importante. Dû pour être mis à jour, ça c'est clair. Il n'y a pas de look dans la classification, dans 3 couches de rideaux. C'est des choses comme ça qui regardent la propreté et ces choses-là, je trouve qu'ils ne s'attardent pas beaucoup là-dessus.
C'est sûr qu'il faudrait les mettre à jour parce que dans les hôtels, avant, une qualité, là, si tu voulais 5 étoiles, ça te prenait un tapis, 1 pouce d'épais avec un sous-tapis. La réalité d'aujourd'hui, il n'y a plus de tapis dans les hôtels. Pourquoi? Parce que c'est hypoallergène.
Une commission parlementaire à ce sujet aura lieu dans la dernière semaine du mois d'août.
Et on parle maintenant de suicide des tours qui invite la population à bouger.
Alors que la vie normale reprend tranquillement après des mois de pandémie, suicide des tours incite la population à bouger. L'organisme qui œuvre en prévention du suicide a mis sur pied une activité de marche qui se tiendra 2 fois par semaine sur l'heure du midi. L'objectif est d'inciter la population à faire de l'activité physique tout en favorisant de nouvelles rencontres. On écoute Carole Saint-Amour, directrice de l'organisme.
Pour inciter les gens à sortir un peu, à prendre l'air, on a été longtemps en dedans, là, on va se le dire. Tu sais, si on est quelqu'un qui est comme moi, qui fait pas d'exercice, fait que ça va faire au moins 2 petites marches par semaine.
Les personnes intéressées peuvent se présenter devant les bureaux de suicide des tours les lundis et mercredis sur le coup de 12h15. Voici plus de détails en lien avec la tenue de l'activité.
On se retrouve à Suicide des Tours, puis on prend une petite marche d'à peu près une demi-heure. On pense partir vers midi et quart, revenir vers 1h-quart pour que les gens qui travaillent puissent participer. C'est vraiment à la bonne franquette, là. Si tu as envie de te joindre, tu te joins. Si ça ne te tente pas, tu viens pas.
L'organisme Suicide des Tours est situé à l'intersection de la rue commerciale et de la rue Notre-Dame à Maniwaki. En cas de pluie, la marche sera annulée.